News FM, la radio de l'agglo grenobloise.
Radio Belle, le son qui ensorcelle.
Bienvenue sur News FM, dans l'émission Radio Belle. On se retrouve dans l'après-midi pour créer des étincelles.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Myriam.
Et moi, c'est Cyprien.
Vous êtes bien sur News FM, dans l'émission Radio Belle.
L'émission qui déchire.
Samia et Chanès, si vous m'entendez, on vous fait des coucous d'ici. Alors, autour de notre table, nous avons Hakim, qui réalisera un micro-trottoir sur la transition de l'enfance à l'âge adulte.
Salut, merci.
Salut Hakim.
Mais aussi Ryan, qui nous fera part de ses connaissances sur la mythologie nordique. Bonjour Ryan.
Bonjour.
Mais attends, elles sont où les filles ?
Bah, je suis là, moi.
Non, mais pas toi. Je parle de Cécile, Jenna et Virginie.
Ah ! Elles nous retrouveront après la pause musicale. Il y aura donc Andrea qui nous présentera un de ses artistes préférés. Et enfin, Jenna, Cécile et Virginie qui nous feront découvrir une association qui se nomme La Correspondance. On vous laisse sans plus tarder avec Hakim.
Merci Myriam. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai réalisé un micro-trottoir et je me demandais à partir de quand on devenait des adultes. Et je me suis dit d'avoir plusieurs points de vue, ce serait plus intéressant. Et je vous laisse écouter les réponses que j'ai pu obtenir. Bonjour, quand est-ce qu'on devient adulte ?
Ah, c'est pas facile ça, je pense à 30 ans.
Ben, pour moi, quand ma fille elle deviendra une adulte, c'est quand elle sera responsable de ses actes. Et ça va dépendre de sa gamberge, comme elle est.
Quand est-ce qu'on devient adulte ? Je pense que quand on a la maturité pour pouvoir se débrouiller tout seul, hein, on a un certain nombre de tâches dans la vie.
Alors, pour moi, une personne devient adulte lorsqu'elle est dépendante dans sa vie et responsable de ses gestes.
On ne devient jamais adulte, on reste toujours un enfant dans sa tête.
On devient adulte quand on se sent prêt ou qu'on y est confronté, je dirais.
Et maintenant que vous êtes adulte, est-ce que vous regrettez des choses de votre enfance ?
Ah oui, quand on était enfant, c'est pas la peine de penser qu'est-ce qu'on va manger demain. Il faut trouver le salaire pour faire vivre les enfants.
Tous les jours. L'enfance, c'est bien plus facile, bien plus fun.
Oui, mon adolescence, mon enfance me manque. C'était les plus belles années pour moi, l'innocence, parce que j'ai une enfance sereine par rapport à la vie d'aujourd'hui. Pas de prise de tête sur les factures, les problèmes de la vie quotidienne.
Oui, mon enfance, elle me manque. Arrivé à un âge, on ne peut pas refaire ce qu'on refaisait quand on était enfant.
Je ne suis toujours pas adulte et oui, je regrette l'enfance.
Ah là 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 là, le temps passe tellement vite. Hier, nous étions des enfants. Aujourd'hui, nous sommes déjà des jeunes adultes. Et demain, nous serons des vieux et tout ramolli.
Doucement, Hakim. Laisse-nous quand même le temps de profiter de notre jeunesse. Déjà que Myriam, elle râle tout le temps. D'ailleurs, Myriam, quand est-ce qu'on devient adulte ?
Pour moi, on devient adulte lorsqu'on atteint une certaine maturité, qu'on entre dans le monde du travail, qu'on sait gérer un budget et un foyer. Tout le contraire de toi, quoi. Et de Ryan aussi, puisque visiblement, monsieur boude. Ryan, c'est quoi ton problème ?
J'en ai marre. On est en décembre, il n'y a toujours pas de neige. Je vais migrer au nord si ça continue. À moins les paysages enneigés et le froid. En plus, vous saviez que la mythologie du nord était passionnante ? Je trouve déjà les mythologies en général fascinantes. Ce sont les premières histoires, les premières épopées fantastiques de notre monde. On y trouve souvent de nombreux dieux, des bêtes chimériques, ainsi que des histoires dantesques. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la mythologie, laissez-moi vous la définir. La mythologie, c'est tout simplement l'ensemble des mythes et des légendes propres à un peuple, une civilisation ou à une religion. Par exemple, nous pouvons directement penser à la mythologie grecque, Héraclès, les monstres et les dieux, mais nous pouvons aussi penser aux mythes arthuriens ou bien aux croyances japonaises, le shintoïsme. Enfin, puisque cela a relation avec la religion, nous pouvons tout autant parler des mythes que contiennent la Bible, la Torah et le Coran, avec le Léviathan, l'Arche de Noé ou Moïse qui coupe la mer en deux, sans compter les anges, les djinns et tout le reste. En fait, presque, si ce n'est toutes les civilisations et les peuples, ont ou ont eu une mythologie à un moment donné, et ce, de partout dans le monde. La plupart des mythologies possèdent plusieurs versions, étant nées de croyances collectives, donc de plusieurs esprits, avec de multiples auteurs ayant ajouté au mythe au fil des siècles. Voilà pour ce qui est de la mythologie, maintenant il est temps de vous décrire la mythologie nordique. Commençons donc par son origine dans le monde réel.
La mythologie nordique regroupe les croyances des peuples païens qui vivaient en Europe du Nord. L'Islande, la Scandinavie, par là quoi. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un païen, il s'agit tout simplement d'une personne qui croit en l'existence de plusieurs dieux. Un polythéiste. Cette mythologie, donc, découlerait d'une mythologie plus ancienne, la germanique. Néanmoins, les différences sont minimes, les noms des dieux changent légèrement, les mythes diffèrent quelque peu, mais on peut aisément relier les deux. Les sources qui ont aidé les historiens à retracer cette fresque compliquée datent pour les plus importantes du XIIIe siècle. Avant cela, les récits se transmettant de manière orale, peu de traces subsistent. Et c'est bien là un problème, puisque ces pays nordiques ont été christianisés en masse avant cette période. Les récits écrits à cette époque peuvent donc être considérés, par certains, comme altérés par une main chrétienne qui aurait pu arranger un peu l'histoire en fonction de sa propre culture. Au XIIIe siècle fut rédigé un ensemble de poèmes mythologiques, l'Edda poétique. Ce véritable recueil, placé au sein d'un codex, le Codex Regius, rassemble des poèmes et des chants allant du 8e siècle au 13e siècle. C'est la source principale d'informations qui nous permet aujourd'hui d'en savoir un peu plus sur la mythologie nordique. Le deuxième ouvrage de référence fut rédigé par un historien islandais, Snorri Sturluson, et intitulé l'Edda en prose, plus communément appelé l'Edda de Snorri. La mythologie nordique, longuement oubliée, fut redécouverte au 19e siècle, notamment à travers le mouvement romantique. Si on peut faire des parallèles avec la mythologie grecque, elle reste malgré tout bien différente sur de nombreux points. En effet, une place plus importante est donnée à la vie et à la mort. Et c'est bien l'une des grandes différences avec les croyances grecques, car dans la mythologie nordique, les dieux sont tout à fait mortels.
Exact, les dieux nordiques sont certes puissants, mais vulnérables à la mort. Je trouve qu'en sachant cela, les mythes et légendes nordiques sont tout de suite plus intéressantes, surtout quand on connaît l'histoire du Ragnarok. Le Ragnarok, c'est la fin prophétique des temps. Après 3 ans entiers d'hivers rudes, une guerre éclatera entre les dieux et les géants qui verra la mort de tous les géants, la majorité des dieux, et ne laissant qu'un seul couple d'humains pour repeupler la Terre. Maintenant qu'on a parlé de la fin, parlons du début. Le début des mythologies n'est pas souvent simple et sensé. La mythologie nordique ne fait pas exception. Au commencement, il n'y avait que le vide, appelé Ginnungagap, situé entre le royaume de feu de Muspelheim et celui des brumes glacées de Niflheim. D'un morceau de glace fondue issu de Niflheim sortit Ymir, le tout premier être divin, un géant de glace. De multiples façons, y compris de sa sueur, naquirent les premiers êtres vivants et de son sommeil les premiers géants. Plus tard, sorti d'un second bloc de glace, apparut Odumla, la vache qui nourrirait Ymir et qui, en léchant un troisième bloc de glace, décidément la mythologie nordique possède plus de glaçons que mon congélateur, je reprends, d'un troisième bloc de glace se réveilla donc Buri, premier des dieux. Buri s'unit à une géante pour donner la vie à Bor, qui lui aussi, avec une géante, donnera naissance à 3 fils, Vili, Vé et Odin. Les 3 frères s'unirent plus tard pour terrasser Ymir, et grâce à son corps, donner naissance à Midgard, la terre, ainsi qu'Asgard, royaume des dieux. Après que la terre soit créée, les dieux sculptèrent 2 troncs et leur donnèrent la vie, créant ainsi les humains qui peupleraient Midgard. Voilà pour la création et fin du monde. Bien que je vous ai parlé de 4 royaumes, il y en a en tout 9 qui verront le jour. Midgard, royaume des hommes, Asgard, royaume des dieux, dit les As, Vanaheim, royaume des dieux Van, Jotunheim, royaume des géants de glace, Alfheim, royaume des elfes, Nissavellir, royaume des nains, Helheim, royaume des morts, et enfin Muspelheim, royaume des géants de feu, et Niflheim, dont nous avons déjà parlé. Je vois comme un pattern dans les noms. Comme toute mythologie, la mythologie nordique est assez dense en histoire, ayant été étoffée durant des siècles, en plus du besoin d'expliquer par des mythes chaque chose de notre monde. Par exemple, les éclairs sont le fruit de Thor, dieu du tonnerre, fils d'Odin. Le soleil et les étoiles sont nés, elles, du royaume de Muspelheim. Et l'après-vie se passe au Valhalla, un lieu à Asgard réservé à ceux qui sont morts vaillamment au combat, et Helheim pour les morts de toute autre façon. Parmi les nombreux récits existants, le personnage que l'on pourrait qualifier de principal serait Odin. Il a vécu de nombreuses aventures, il a donné l'esprit et la vie aux hommes, il a sacrifié son œil pour obtenir le savoir et s'est pendu à Yggdrasil, arbre-monde sur lequel reposent les 9 royaumes, pour obtenir encore plus de savoir. Odin a un nombre incalculable de titres. le père de toutes choses, roi des dieux, Grisbarbe, le pendu, le haut, dieu des corbeaux et bien d'autres. Et en parlant de corbeaux, il est toujours accompagné de ses deux corbeaux, Huggin et Mounin, qui lui servent de compagnons, de messagers et d'éclaireurs lui permettant de garder un œil sur les neuf royaumes. Les dieux sont assez nombreux, surtout si on les couple au nombre de géants et de bêtes mythologiques. Et comme les noms d'Odin, les histoires composant la mythologie nordique sont nombreuses. Et cela, bien qu'une partie ait été perdue avec le temps, voire effacée ou modifiée par l'arrivée du christianisme. Si vous aimez les histoires fantastiques, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à cette mythologie riche qui reflète assez la culture dont elle est issue, avec un focus sur les combats et la connaissance. Voilà qui conclut ma rubrique mythologique.
Waouh, c'était super passionnant. Merci Ryan.
Vous voyez, elle est toujours en train de râler. Bon, moi je vais me poser devant un film.
Mais oui, ça te dirait qu'on se fasse un cinéma demain?
Ouais, mais qu'est-ce qu'on pourrait regarder?
Bah justement, demain il y a un super film de Noël qui sort. Il s'appelle Le Noël de Teddy l'ourson. Et il nous raconte l'histoire de Marianne, une petite fille qui attend avec impatience l'arrivée de Noël avec toute sa famille. Mais la petite fille ne peut s'empêcher de penser à Teddy, un adorable ours en peluche qu'elle a vu sur l'étagère d'un stand du marché de Noël. Elle en est sûre, elle l'a vu éternuer comme tu viens de le faire, oui. Elle rêve de devenir amie avec lui, mais quelqu'un d'autre vient de le gagner à la loterie. Et avec l'aide des autres peluches et un soupçon de magie de Noël, on espère qu'elle arrivera à rejoindre son ourson.
Il a l'air captivant, et je vais dire à mes petits frères de le regarder. Sinon, j'ai vu qu'il y avait un nouveau film du Seigneur des Anneaux qui se déroule 183 ans avant la trilogie. Helm, point de marteau, roi de Rouen, défend la forteresse de Ormdurg contre l'impitoyable Wolf. Sa fille Hera mène la résistance pour protéger leur peuple. Tiens, je te laisse écouter la bande-annonce.
Peter Jackson présente Un voyage inédit. Un retour en terre du milieu. À travers les yeux du célèbre réalisateur Kenji Kamiyama.
Toute la terre du milieu connaît la légende de la guerre de l'anneau. Mais 200 ans plus tôt.
Cavalier de la Marche, frère du roi,
naquit une autre légende.
En avant!
Le garçon que j'ai connu n'aurait jamais souhaité la guerre.
Ce garçon n'existe plus.
Tirez!
Ils sont si nombreux.
Je m'engage à me battre pour mon roi.
Tu ne sais rien de la guerre.
Je suis la cavalière la plus rapide que vous ayez.
Au-delà du doute, au-delà du désespoir, se trouve le véritable courage.
Tu sais quoi, j'avais encore jamais regardé Le Seigneur des Anneaux et ce film d'animation a l'air super intéressant, mais j'ai besoin de me décontracter là. Donc je te propose le film Jamais sans mon psy, une comédie jouée par Christian Clavier, Baptiste Le Caplin et Claire Chust. Bah, tiens, lis-nous le synopsis.
Le docteur Béranger est un célèbre psychanalyste à qui tout réussit. Sa vie serait parfaite s'il n'y avait pas ce patient très angoissé et extrêmement collant, Damien Leroy. Pour enfin s'en débarrasser, il lui fait croire que le seul moyen de guérir est de trouver le grand amour. Mais alors qu'il s'apprête à fêter ses 30 ans de mariage, sa fille lui annonce qu'elle a enfin trouvé l'homme de sa vie et qu'il n'y est que Damien. La fête va virer au cauchemar.
Super. Allez Cécile, balance la musique s'il te plaît. On va se poser devant un film, nous.
Radio Belle, avec vous pour de nouvelles étincelles.
Sabes, aún recuerdo esa vez que te vi. Yo no entiendo cuánto tiempo yo viví sin ti. Eres ese reflejo que quiero mirar. Toda la vida que me hace falta para continuar. De ti yo quiero saber, no hay más tiempo. Sueños. yo te estoy llamando. Deja que te cuente todo lo que siento por ti. Yo te voy a decir toda la verdad. Yo te daría mil besos sin vacilar. Pasa la noche entera y yo muriendo porque me quieras. De ti yo quiero saber, no hay más tiempo que perder. Es el fuego que me castiga y si te anhela nunca te olvida, no, no. De ti yo quiero tener una noche, tocar tu piel. Ya no aguanto más esta espera, vuelvo a tu cuerpo, soy mi condena. Quiero un pedacito de tu cuerpo en mis sueños, un poquitico de tu piel en mis besos. Quiero bailar contigo siempre para no despertar. Razones para hablarte de amores, son las canciones que desvelan mis noches. Quiero cantar contigo para nunca olvidarte.
Hágale pues, mi amor, una miradita. Te lo dice Charlie, baby.
Radio Belle, avec vous pour de nouvelles étincelles.
Nous sommes de retour, toujours sur News FM, dans l'émission Radio Belle.
L'émission qui déchire. J'espère que cette pause vous aura fait du bien. On vous laisse maintenant entre les mains d'Andrea. Andrea, quel artiste vas-tu nous proposer ?
Alors, je vais vous présenter Pierre Garnier. Il a gagné la saison 11 de la Star Academy. Il a gagné contre Julien Lieb. Pierre est un jeune artiste de 22 ans qui a été connu grâce à la Star Academy. Il a sorti son premier album au mois de juin 2024 qui s'intitule « Chaque seconde ». En septembre, Pierre a sorti une réédition de son premier album qui comprend 4 titres supplémentaires.
J'ai parcouru le monde, j'ai traversé les années sans jamais t'oublier. Et j'ai vécu chaque seconde à penser en secret qu'un jour on se retrouverait. J'ai fait la fête partout sur la planète. Je voulais pas l'admettre, mais t'étais dans ma tête. J'ai parcouru le monde, je rentre à la maison ce soir. Dis-moi que c'est pas trop.
Il était nommé au Energy Music Award 2024 dans les catégories Révélation francophone de l'année et Chanson francophone de l'année, où il a remporté les 2 prix. Il a été également récompensé au MTV Europe Music Award 2024 dans la catégorie Meilleur artiste français.
Comment faire quand on ne sait pas ce qu'on perd à se taire avant d'avoir mal. Avec le temps, est-ce qu'on apprend à poser des mots sur ce qu'on ressent. Comment dire quand on ne voit pas ce qu'on perd à se mentir avant d'avoir mal. Avec le temps, est-ce qu'on apprend à poser des mots sur ce qu'on ressent.
Pour les fans ou ceux qui veulent découvrir Pierre Garnier, il sera en concert dans toute la France avec le Chaque Seconde Tour à partir du 10 janvier 2025. Il sera au Palais des Sports de Grenoble le 12 avril. Pour ceux qui ne seront pas disponibles, il sera au Arcadium Annecy en Haute-Savoie le 17 janvier 2025. Vous pouvez retrouver toutes les dates et places disponibles sur le site de la Fnac Spectacle.com. J'espère que vous avez aimé cette rubrique sur Pierre Garnier et que je vous ai fait découvrir un nouvel artiste.
Merci Andrea. En effet, je ne connaissais pas cet artiste.
Moi non plus, c'était super intéressant.
Et enfin, pour terminer, Cécile, Jenna et Virginie vont nous présenter un tiers-lieu grenoblois.
Bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui, nous allons vous présenter un reportage sur un tiers-lieu grenoblois,
la correspondance.
Mardi matin, nous avions rencontré Jérôme Delignerol, coordinateur à la correspondance et qui travaille pour l'entreprise Pali Pali. Il nous expliquera le projet du lieu ainsi que son rôle dans son entreprise pour ce tiers-lieu.
Nous avons aussi fait un micro-trottoir pour rencontrer les différents acteurs présents à la correspondance. Nous avons interviewé le gérant du Bivouac Café, puis 2 salariés du supermarché coopératif de l'Éléphane.
Tout de suite, l'interview de Jérôme Delignerol, coordinateur à la correspondance.
Est-ce que vous pouvez présenter le site de la correspondance.
La correspondance, c'est un tiers-lieu culturel et social qui est installé dans un projet d'urbanisme transitoire qui a été imaginé par la ville de Grenoble. Voilà, donc ça se situe sur la zone Flaubert, dans le secteur 4 de la ville de Grenoble. Et on est un lieu ouvert à tous qui comporte 4 bâtiments dans lesquels il y a des bureaux, des espaces de pratique sportive dense, un supermarché participatif et un bar restaurant.
Est-ce que vous pouvez expliquer votre rôle dans ce site par le biais de Palipali?
Alors oui, moi j'ai le rôle de coordinateur, c'est-à-dire que je suis celui qui fait en sorte que ce qu'on appelle la communauté des résidents, des structures qui sont accueillies sur le site, que cette communauté fonctionne bien ensemble, c'est-à-dire que tout le monde se sente bien, que tout le monde respecte la place qui est la sienne. Voilà, donc ça c'est le premier rôle, c'est d'être cet animateur-là et un interlocuteur un peu privilégié. Après, le deuxième rôle, c'est vis-à-vis de tous ceux qui de l'extérieur soit s'intéressent à la correspondance, un peu comme vous, ou des structures qui voudraient venir réaliser des activités ou des événements, programmer des événements dans les espaces de la correspondance. Donc je suis leur interlocuteur également. Et puis enfin, on a un rôle aussi à la fois de communication vis-à-vis de l'extérieur pour faire savoir ce qui se passe. On est le relais un peu aussi de toutes les structures qui proposent des choses ici. Donc on organise la communication de tout l'agenda des événements qui se passent sur le site. Et puis enfin, faire un peu remonter des informations, partager des informations avec la ville de Grenoble qui s'intéresse en fait à ce qui se passe ici. Pas tant pour contrôler, mais plus parce que c'est une expérience. Et que du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça marche, qu'est-ce qui marche pas bien, qu'est-ce qui marche bien. Voilà, donc ça, faut leur raconter. Donc c'est aussi mon job.
Pourquoi la correspondance ?
Pourquoi ça s'appelle la correspondance? Alors, c'est un nom que Palipali a proposé, parce que c'est important d'avoir un nom de lieu, de site, et que IUFM, c'était quand même pas terrible, qui était souvent le nom sur lequel on connaissait le lieu. Donc, on a utilisé à la fois le fait que beaucoup de rues autour de la correspondance portent des noms d'auteurs, d'auteurs célèbres, d'auteurs français, voilà, et dont un certain nombre avaient justement écrit des lettres, Flaubert en étant un très bon exemple. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pas très loin, il y a la bifurque, donc il y avait et puis il y a des traces encore des lignes de petits trains qui circulaient dans le quartier pour aller d'entreprise en entreprise avec de la marchandise. Donc du coup, il y avait ce côté un peu un clin d'œil à la bifurque et à ce souvenir là avec l'image du train. Et enfin, on voulait que ce soit un lieu de gens qui se rencontrent, justement comme dans une gare, donc des gens qui sont en train de passer et des gens qui sont en train d'attendre. Enfin, nous, c'est ça, les gens viennent et puis ils se croisent, ils se rencontrent. Voilà, d'accord.
Je vous laisse avec le micro-trottoir.
Comment avez-vous découvert la correspondance ?
Parce que j'y travaille, parce qu'on est venu y travailler.
Que pensez-vous du fonctionnement ?
Eh ben, je trouve que c'est chouette d'avoir plein d'acteurs différents dans un même lieu, d'avoir à la fois le supermarché, le resto, d'avoir des grandes salles, des petites salles, des grands bureaux, des petits bureaux. Je trouve que ça fait un chouette lieu.
Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites à la correspondance ?
Alors nous, c'est l'association MixArt, donc on a les bureaux en haut, et du coup, on est une asso culturelle de Grenoble. On organise des événements sur Grenoble et Agglo ou plus loin. On fait aussi du booking, donc on accompagne des artistes, des groupes de musique, des compagnies. On fait aussi de l'action culturelle, quoi. On fait des prestations aussi, donc restauration, buvette, toilettes sèches depuis peu.
Ça nous arrive d'organiser des choses ici aussi, à la correspondance. Il y a eu un spectacle des Fuego Loco, une compagnie qu'on accompagne il y a 2 semaines pour la fête de l'automne.
Bonjour, moi je suis Mehdi Rollin, je travaille à Cyclo, on est un service de livraison sur Grenoble.
Bonjour, je suis Estelle de l'association Empreinte, je propose des cours de hip-hop ainsi que de house. Voilà, je suis pluridisciplinaire, donc je fais également du jazz, je propose des cours ainsi que des événements sur l'histoire du hip-hop.
On continue avec l'interview du Bivouac Café.
Bonjour, donc je suis Antoine Guillaume, je suis responsable du Bivouac Café sur le site de la correspondance.
Est-ce que vous pouvez présenter votre association ?
Alors nous, donc on n'est pas une association, on est une société coopérative. Donc on existe depuis 7 ans maintenant. On a un autre bistrot culturel en ville qui s'appelle La Crique Sud. Et donc on a ouvert ici le Bivouac Café en mai. Voilà, donc là sur le site, on est une équipe de 5 personnes. Et donc on a un petit peu la place du village du tiers-lieu de la correspondance. On est ouvert du mardi au samedi de midi à minuit, en gros, sauf le samedi, on commence à 17h. Et donc, on fait des repas le midi en format cantine, principalement avec des produits locaux, avec une offre assez simple. Mais voilà, le but, c'est que ce soit rapide, parce qu'il y a pas mal de monde qui travaille autour. Après, on est ouvert l'après-midi. Après, le soir, on est ouvert en format bar. On accueille aussi pas mal d'événements culturels, concerts, théâtre, théâtre d'impro.
Est-ce que ensuite vous pouvez nous expliquer votre rôle donc dans cette société coopérative ?
Et bah oui, donc moi je suis responsable du café. Alors je fais plein de choses. Je fais du service, l'accueil des gens, je m'occupe des commandes, je fais là où il y a besoin en fait.
Petite dernière question, est-ce que vous pouvez nous donner un peu des événements culturels qui ont été faits ou qui vont se passer ?
Oui, tout à fait. Bah, donc là, ce soir, on a un groupe Alpes Solidaires qui vient donc, dans différents espaces de la correspondance pour faire une sorte de forum pour présenter plein d'acteurs de l'économie sociale et solidaire dont on fait partie. Donc c'est un mouvement qui essaye de faire de l'économie autrement. Demain, on a un événement de chant lyrique dans les cafés. Vendredi dernier, on avait du catch d'improvisation. On fait pas mal de choses différentes.
Et pour finir, l'interview de l'éléphant.
C'est une épicerie participative. Donc le concept, c'est en échange de 3 heures de bénévolat par mois, et ben on peut accéder aux produits qui sont vendus à l'éléphant, justement. En fait, l'avantage, c'est qu'ici, on a une marge fixe, 25%, et on commande en général chez des fournisseurs qui sont de la région, donc des produits locaux et donc à marge fixe, pas fait comme dans les supermarchés où ils ont des marges un petit peu volatiles. Le principe, c'est que les bénévoles, ils participent comme les salariés à la vie de l'association. Donc, ils ont des droits de vote, des décisions... En fait, tout est à égalité et que c'est nous tous qui façonnons l'association.
Et maintenant, Abla et Lorraine vont nous présenter leur rôle dans l'association L'Éléphant.
Alors moi, du coup, je m'occupe de toutes les tâches qui sont liées à la communication. Donc, en général, j'organise des événements, donc que ce soit à L'Éléphant même ou alors en lien avec d'autres partenaires, par exemple... la mairie, les MDH, les maisons des habitants, ou aussi à la correspondance là où on est présent actuellement. Il y a beaucoup d'événements et en général on se greffe à eux pour pouvoir amplifier l'éléphant au niveau des membres et aussi avoir une meilleure visibilité. Donc je m'occupe aussi de la gestion du site web. Pour les réseaux sociaux, il y a un créneau spécifique à l'éléphant. Donc justement, il y a plusieurs créneaux. Les bénévoles, ils peuvent faire par exemple la gestion de l'épicerie, choisir les produits qui vont être dans l'éléphant, du bricolage et tout plein de créneaux. Et entre autres, il y a un créneau réseaux sociaux. Et là, je travaille avec une bénévole qui m'aide pour cette gestion-là. Et c'est une manière de montrer aussi que les bénévoles, ils participent vraiment à tout. Toutes les tâches qui sont liées à l'association et à son développement, entre autres là sur les réseaux. Donc je m'occupe aussi des affichages, de tout ce qui est lié à la communication finalement. Plein d'autres petites choses. Et oui, après ça c'est le rôle de toutes les trois, parce que du coup il y a moi, Abla et une troisième personne aussi. En salarié, on est toujours présente pour les bénévoles s'ils ont des questions, s'ils ont besoin d'aide. On est là pour les épauler en cas de besoin.
De mon côté, c'est assez particulier parce que j'ai enchaîné deux postes. Là je remplace ma collègue et du coup je vous explique plutôt ce rôle-là vu que je suis dedans. En fait, elle s'occupe du développement du projet et du passage des commandes. Donc pour l'instant je suis dans le passage des commandes, on a une centaine de fournisseurs et ça a été estimé que les bénévoles ne pouvaient pas s'en occuper vu le nombre d'heures que ça prenait dans la semaine. Donc je m'occupe de tout ce qui est relations fournisseurs, logistique, suivi de la vente des produits. Je m'occupe aussi d'une partie du développement que je prends progressivement. Là, c'est plutôt les adhésions de personnes morales. En fait, les entreprises peuvent adhérer à l'éléphant sans échanger, sans contrepartie de bénévolat. On travaille aussi avec des bénévoles, justement. Comme ma collègue avait expliqué, il y en a qui choisissent les produits qui vont rentrer à l'éléphant. Et nous, on veille à ce que les produits et les fournisseurs respectent bien des valeurs éthiques, environnementales, sociales.
On espère que ce reportage vous a plu.
Nous tenons à remercier toutes les personnes rencontrées à la correspondance. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour découvrir ce tiers-lieu, nous vous donnons rendez-vous à l'adresse suivante.
30 bis, avenue Marcelin Berthelot.
Merci pour votre écoute et à bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Merci les filles.
Oui, oui, merci les filles.
Bon, chers auditeurs et auditrices, cette émission touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et on vous souhaite tous ici une bonne fin de journée. On se retrouve jeudi. Bisous.
Bisous.
Au revoir.
Radio Belle, le son qui ensorcelle.
News FM, la radio de l'agglo grenobloise.